Vous écoutez, on lit pour vous.
Racisme sur les médias sociaux, des mères lancent un appel au calme. Un texte de Pascal Savoie-Brideau, avec des informations de Karine Godin, paru le 25 juin 2025 sur Ici, Nouveau-Brunswick. Des élus et des personnalités publiques du Madawaska au Nouveau-Brunswick lance un appel au calme et à la tolérance après des propos racistes et xénophobes tenus sur les médias sociaux. Le dernier incident en date, un torrent de propos haineux a été déversé mardi sur Facebook. Certains internautes associent faussement la présence de Coquerel à l'hôpital régional d'Edmundston aux nouveaux arrivants. Parmi ceux qui ont dénoncé ces propos, le maire d'Edmundston, Éric Marquis, le maire de la communauté rurale de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellette, et l'ancien maire d'Edmundston, Cyril Simard. Pour Éric Marquis, en pleine vacances, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. J'étais à l'extérieur et quand j'ai ouvert mes médias sociaux, c'est la première chose que j'ai vue et j'étais complètement jeté à terre de voir les commentaires qui étaient faits par rapport à la situation qui se vit à l'hôpital régional d'Edmundston, qui est déjà une problématique assez particulière. Déjà en novembre 2022, il avait publié une vidéo en ligne dans laquelle il disait ressentir du désarroi après avoir pris connaissance de commentaires haineux et racistes de citoyens de sa municipalité qui s'en prennent aux immigrants qui cherchent du logement dans la région. Un peu plus de 2 ans et demi plus tard, le fait de reprendre à nouveau la parole publiquement pour dénoncer cette haine gratuite le désole. De voir qu'on pointait du doigt les nouveaux arrivants à cause de la présence de Coquerel à l'intérieur de l'hôpital, je me suis dit, ça ne fait aucun sens. Sur quoi on se base pour arriver et dire quelque chose comme ça? À mon niveau, il était clair que je devais absolument intervenir pour mettre fin à ces propos-là, poursuit-il. En plus d'être faux, raciste et gratuit, ces propos sont dangereux, avance le maire de la communauté rurale de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellette. La méconnaissance des faits, lorsque c'est publié sur des réseaux sociaux, ça devient du poison. Ça envenime le climat et les gens se permettent de dire des choses qui sont sans fondement, qui ne sont pas justifiées. Et ça vient briser le climat social de la communauté. Je pense qu'on se doit de répliquer à ça et de dire que ce n'est pas vrai, déclare-t-il. Les maires rappellent qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. La semaine dernière, par exemple, une annonce d'un nouveau logement au centre-ville a aussi dégénéré sur les médias sociaux. On a encore eu une dérape au niveau de dire que ça serait juste là pour les nouveaux arrivants et qu'il n'y aurait pas de logement pour les autres personnes à Edmundston, explique Éric Marquis. Les gens font des amalgamations. Il y a des gens qui ont besoin d'aide et sont enracinés dans la communauté, puis qui n'ont pas nécessairement reçu l'aide qu'ils aimeraient avoir, alors automatiquement, ils vont faire une amalgamation et dire « Ah ben, vous êtes en train de loger et aider les nouveaux arrivants, mais nous, on n'a pas d'aide. » C'est des amalgamations qui sont fausses, pas correctes, et tout ça se répète sur les réseaux sociaux et ça crée un mauvais climat social, ajoute Jean-Pierre Ouellette. Crainte de dérive. L'ancien maire d'Edmundston, de 2012 à décembre 2020, Cyril Simard, a aussi été au cœur d'une situation ressemblante il y a quelques années. J'avais vécu à l'époque des réfugiés syriens le même phénomène, où l'on avait fait un town hall meeting, où on avait fait témoigner des gens qui avaient vécu dans un camp de réfugiés, et ça avait réglé beaucoup cette situation-là, donne-t-il en exemple. Au-delà d'enjeux locaux, Cyril Simard croit qu'il existe actuellement un accroissement d'une certaine pression vis-à-vis de la présence d'immigrants au Canada. Je pense que la population en général est correcte et favorable, mais il y a une minorité locale sur les réseaux sociaux qui va s'exprimer comme on l'a vu, précise-t-il. Et c'est alimenté aussi par des groupes qui sont d'extrême droite et qui sont contre les immigrants au Canada et qui publient ici et là des trucs qui peuvent être partagés par d'autres personnes par ignorance des faits. Cyril Simard craint aussi que cela conduise non seulement à un climat non favorable, mais à une escalade très risquée. Ça commence comme ça, une petite agression, un petit préjugé, mais ça conduit éventuellement à un durcissement parce que les gens finissent par croire que c'est réel, estime Cyril Simard. On a vu des dérives ailleurs où il y a des gens qui ont manifesté, pas seulement mentalement, mais physiquement, on a posé des gestes. Sensibilisation et acceptation sociale. Pour Cyril Simard, la solution passe par la dénonciation des propos extrémistes véhiculés et aussi de l'éducation de la population. Un véritable dialogue culturel dans lequel les gens se rencontrent et où l'on voit la communauté d'accueil accueillir les nouveaux arrivants, comprendre et réaliser ce qu'ils sont, comment ils veulent vivre chez nous, et l'inverse également, dit-il. C'est ce dialogue-là qui va faire en sorte qu'on a de véritables communautés accueillantes. Éric Marquis et l'équipe de la ville travaillent de leur côté depuis quelques semaines pour cibler des moyens d'aller à la rencontre des gens pour contrer le racisme dans la communauté. Avec des organisations locales, du travail reste encore à faire cet été, dit-il. On a besoin de faire valoir l'importance des nouveaux arrivants et de l'immigration dans notre communauté, parce que si on ne les avait pas, je peux vous dire que ce serait extrêmement difficile à l'intérieur de notre municipalité, clame-t-il. Dans sa longue carrière comme enseignant, Éric Marquis dit avoir toujours travaillé avec les jeunes sur la question d'acceptation sociale, sujet qui lui tient à cœur. Ça ne fait aucun sens qu'aujourd'hui, on est dans un monde où des adultes se permettent, très publiquement, d'aller en ligne et d'écrire les commentaires qui ont été faits, tranche-t-il. Que ce soit les nouveaux arrivants ou peu importe, ces gens-là enrichissent notre communauté. C'est un enrichissement au niveau économique, social et culturel. Alors je pense qu'on se doit de remettre la vérité en place, déclare pour sa part Jean-Pierre Ouellette. C'était « Racisme sur les médias sociaux, des maires lancent un appel au calme ». Un texte de Pascal Savoie-Brideau avec des informations de Karine Godin, paru le 25 juin 2025 sur Ici, Nouveau-Brunswick.
Les chialus, éloge de l'opposition. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 29 mai 2025 dans Le Devoir. Comment fonctionne le système politique québécois et sa députation, du moins du côté de l'opposition? C'est la question en gros à laquelle tentent de répondre les chialus, un documentaire qui constitue une sorte de douce introduction à la vie parlementaire. En entrevue, le premier ministre François Legault affirme qu'il est vrai que dans l'opposition, c'est pas drôle chaque jour de trouver un sujet sur lequel il faut chialer. Mais la vie de parti du côté de l'opposition se limite-t-elle à se plaindre, à critiquer en allant jusqu'à râler? Les Chialeux constituent le premier long-métrage documentaire réalisé par Tom Rodrigue. Sans s'attarder aux origines du système politique québécois ni aux biais qui en découlent, ce film donne la parole aussi bien à l'ex-chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, qu'à l'ex-whip du Parti québécois, Véronique Yvon, ou à l'ex-leader parlementaire de Québec solidaire, Christine Labrie, en passant par Éric Duhaime, Mario Dumont, Jean-Pierre Charbonneau, Jean-François Lisée et plusieurs autres, tout en convoquant des observateurs comme les journalistes José Boileau et Antoine Robitaille. En guise de mise en scène, ce documentaire s'approprie l'esthétique d'un vieux jeu vidéo qui sert à découper son propos. C'est sous ce couvert de la métaphore du jeu que sont présentées la vie politique parlementaire, ses tactiques et ses modes opératoires. Que signifie la démocratie dans un jeu pareil? Au Québec, il faut remonter à 1985, explique l'ex-présidente de la CSN, Claudette Charbonneau, pour trouver un gouvernement qui, à la suite d'une élection, obtient la majorité des suffrages. Le gouvernement libéral de Robert Bourassa obtient cette année-là pratiquement 56 % des votes. Depuis, autrement dit, ce sont toujours des gouvernements élus par des minorités qui s'imposent à la majorité. Dans cette perspective, les oppositions se trouvent en vérité à représenter le gros de la population. En somme, chaque élection produit plus de perdants que de gagnants. Pour Christine Labrie de Québec solidaire, on n'est pas un bloc monolithique au Québec. Il y a des opinions différentes. Tout cela s'exprime-t-il parfaitement dans le système actuel? Certainement pas. Dominique Anglade, ancienne chef du Parti libéral, indique que le rôle de la chef de l'opposition officielle, c'est vraiment de se lever et d'illustrer un problème par rapport au gouvernement qui est en place. C'est son rôle. C'est son premier rôle. Un rôle de premier plan, à en croire Jean-Pierre Charbonneau, ancien président de l'Assemblée nationale. Charbonneau explique que, comme on n'a pas une véritable séparation des pouvoirs, le contrôle du pouvoir exécutif se fait par les partis d'opposition, par les députés de l'opposition. L'ancien chef de l'Action démocratique du Québec, Mario Dumont, considère quant à lui que c'est ça la politique, un lot d'influences qui s'entrechoquent. Il reste que la décision finale, le pouvoir final, il repose à l'Assemblée nationale. Pourquoi ne pas travailler davantage dans la collégialité? Les partis politiques existent au nom des différences qu'ils entendent véhiculer. Ils doivent en principe les incarner. Pour cette raison, l'union sacrée, au nom d'intérêts supérieurs à la partisanerie, n'est souvent pas possible. Tout est fait pour être dans la différence, dans la distinction et aussi, je dirais, dans la méfiance, affirme l'ex-députée Véronique Yvon. Il reste que les citoyens sont heureux, constate-t-elle, de voir les députations capables de travailler ensemble, au moins à l'occasion. Est-ce qu'un système de représentation différent améliorerait la situation? C'est l'une des questions que posent les Chialeux, un documentaire qui possède plus de vertus éducatives que cinématographiques. C'était « Les Chialeux, éloge de l'opposition », un texte de Jean-François Nadeau paru le 29 mai 2025 dans Le Devoir.
Quelles sont les entreprises qui captent notre eau? Un texte de Victor Vaillancourt paru le 6 mai 2025 dans Pivot. Si les municipalités sont les principales utilisatrices d'eau dans la province, certains secteurs industriels, comme ceux des pâtes et papiers, des mines et de la métallurgie, ou encore des boissons, pompent aussi d'importantes quantités de cette précieuse ressource. Dans le secteur des boissons, la majeure partie de l'eau captée l'est par des entreprises étrangères. Avant 2020, les données sur le captage de l'eau au Québec étaient très fragmentaires. C'est pourquoi l'organisme Au Secours et le Centre québécois du droit de l'environnement, CQDE, ont demandé en 2018 l'accès à cette information, un processus qui s'est soldé par une réussite. Depuis 2024, à la suite de l'adoption d'une loi par l'Assemblée nationale, le ministère de l'Environnement rend public les informations sur le prélèvement d'eau par les entreprises. Nous savons donc désormais qui exploite la ressource et dans quelle proportion. Voici un tour d'horizon basé sur les données les plus récentes qui concernent l'année 2023. Qui exploite l'eau? Les plus grands capteurs d'eau au Québec sont les municipalités, sans surprise. À elles seules, les municipalités pompent près de 2 000 milliards de litres, ce qui correspond environ aux 2/3 de l'eau captée chaque année. La Ville de Montréal est responsable de près du 1/5 de toute cette exploitation, avec un total de 541 milliards de litres. Un cube qui aurait ce volume serait haut de 815 mètres, soit à peine plus petit que le Burj Khalifa, le plus grand gratte-ciel au monde. Le secteur privé n'est pas en reste. Le tiers de l'eau captée annuellement au Québec, près de 1 000 milliards de litres, l'est par des entreprises. Les industries qui sont les plus gourmandes sont les papeteries, les mines et les industries chimiques et pétrochimiques. L'industrie des boissons. Bon nombre des entreprises qui captent l'eau du Québec œuvrent dans le secteur des boissons, ce qui inclut les entreprises d'embouteillage et de transformation. En 2023, cette industrie a pompé plus de 8 milliards de litres. Contrairement aux municipalités qui utilisent l'eau pour l'approvisionnement public, les entreprises d'embouteillage prélèvent la ressource pour la revendre, souvent à un prix bien supérieur à son coût d'extraction. Cela pose la question des redevances qu'elles paient en échange de cette eau, qui sont souvent jugées dérisoires par rapport aux profits générés. C'est pourquoi nous sommes en droit de nous intéresser à qui profite cette ressource, même si, en somme, cette industrie consomme moins d'un point de pourcentage de toute l'eau exploitée au Québec. La première entreprise en importance dont l'activité principale est l'embouteillage d'eau potable est SK, qui a été rachetée en 2005 par Morgan Stanley, un fonds d'investissement américain. Notons aussi que cette compagnie a reçu en 2021 un prêt de 2 millions de la part d'Investissement Québec pour qu'elle conserve son usine de Saint-Mathieu-d'Aricana. Des intérêts étrangers. On constate aussi que les deux entreprises du secteur des boissons qui captent le plus d'eau appartiennent à des intérêts belges et américains respectivement. La brasserie Labatt possède des marques bien connues comme Budweiser et Corona. Diageo est, pour sa part, propriétaire de plusieurs marques d'alcool et de spiritueux, dont Smirnoff et Guinness. Bien que la plupart des entreprises du secteur des boissons soient d'origine canadienne, on constate rapidement que, tout ensemble, elles ne captent qu'un peu moins du quart de toute l'eau exploitée par ce secteur d'activité. C'est moins que les compagnies d'intérêt américains qui en captent plus du tiers. C'était « Quelles sont les entreprises qui captent notre eau? » un texte de Victor Vaillancourt, paru le 6 mai 2025 dans Pivot.
Faire ses recherches en minimisant son empreinte, un texte de Valérie Simard, paru le 20 juin 2025 dans La Presse. ChatGPT, Google, Ecosia, quelle est la manière la plus éco-responsable de faire ses recherches? Êtes-vous du genre à demander à ChatGPT une recette de gâteau au chocolat? Ou à vous tourner vers Google pour connaître le temps qu'il fait? La démocratisation des outils d'intelligence artificielle, IA, générative, et leur intégration dans plusieurs plateformes comme Facebook, Instagram et Google ont modifié notre façon de faire des recherches, non sans un impact sur leur empreinte carbone. Cette empreinte, relativement faible lorsque prise individuellement, grandit lorsqu'elle est multipliée par les 5 billions de recherches effectuées sur Google annuellement. Et encore plus, si ChatGPT, Copilot ou Gemini ont été appelés en renfort. L'IA générative, qui est à la base du modèle de ces robots conversationnels, est une technologie puissante, mais aussi très énergivore en raison de la complexité d'entraînement des modèles d'apprentissage profond et de la puissance des serveurs informatiques mobilisés pour répondre à une requête. Il est toutefois impossible de connaître l'empreinte carbone des différentes plateformes, les entreprises refusant de fournir des données précises sur leur technologie. Le seul chiffre divulgué par Google, 0,2 g de CO2 par requête sur son moteur de recherche, date de 2009. Aucune donnée n'a été fournie par OpenAI à propos de ChatGPT. Pour pallier le manque de données, Sacha Luccioni, chercheuse en intelligence artificielle et responsable de l'IA et climat chez Hugging Face, une entreprise qui souhaite démocratiser l'IA, a réalisé l'an dernier une comparaison de différents modèles en libre accès. Pour répondre à une question, un modèle d'IA générative a utilisé de 20 à 30 fois plus d'énergie qu'un modèle qui ne fait que rechercher une information et l'afficher, à l'instar des moteurs de recherche traditionnels. Il faut réfléchir à ce qu'on veut faire, affirme-t-elle. Si on veut savoir quelle est la capitale du Burundi, les moteurs de recherche traditionnels font le travail. D'autant plus que l'IA générative n'est pas à l'abri des erreurs, comme en témoigne l'aperçu que celle de Google génère lorsqu'on interroge le moteur de recherche sur la conjointe de Gabriel Nadeau-Dubois. Non, ce n'est pas Manon Massé. L'IA générative, ça hallucine, met en garde Sacha Luccioni. Ce n'est pas fait pour répondre aux questions, mais pour générer du contenu. Google et son aperçu. Se tourner vers les moteurs de recherche traditionnels ne garantit pas que nos recherches seront effectuées en marge de l'IA générative. Et cela, de nombreux internautes l'ont réalisé récemment après que Google eut intégré un aperçu généré par l'IA aux résultats de plusieurs requêtes faites sur son moteur de recherche. La section « Plus de questions à poser » ajoutée aux résultats sollicite aussi l'IA générative. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se déconnecter de ces outils-là, observe Daria Marchenko, fondatrice d'Ecoist Club, un organisme qui sensibilise le public et les entreprises à la sobriété numérique. On peut certes y échapper en ajoutant moins IA à nos recherches, mais ce n'est pas pour le grand public, déplore-t-elle. Tant qu'il n'y aura pas de restrictions des gouvernements, l'industrie ne va pas se donner la peine de nous indiquer l'impact de nos gestes ni les chemins les moins impactants. Des solutions de rechange à Google. Ainsi, pour mener ses recherches, Sacha Luccioni privilégie le moteur allemand Ecosia, qui verse l'entièreté de ses revenus publicitaires à des projets de plantation d'arbres dans le monde. Depuis son lancement en 2009, ce sont environ 233 millions d'arbres qui ont été plantés. Ecosia utilise les moteurs Bing, Microsoft et Google, mais travaille à développer son propre index de recherche en partenariat avec l'entreprise française Quant. Précisons que l'entreprise à but non lucratif propose un robot conversationnel alimenté par OpenAI, un ajout qui a été critiqué par plusieurs utilisateurs. Pour Daria Marchenko, il s'agit néanmoins d'un bel exemple d'éco-design, puisque l'utilisateur a le choix d'activer le robot. Lilo et Ecogine sont deux autres moteurs de recherche établis en France, reconnus pour leur engagement environnemental. DuckDuckGo et StartPage figurent également parmi les moteurs de recherche de rechange les plus connus, mais misent davantage sur la protection des données personnelles que sur l'éco-responsabilité. Est-ce que ça fonctionne? Nous avons comparé les résultats proposés par Google, Ecosia, Lilo et Ecogine pour 5 recherches liées à la vie quotidienne. Recettes de gâteaux au chocolat, cordonnier, horaires d'autobus et à l'actualité, frappe en Iran et troisième lien. En général, les résultats générés par Ecosia s'apparentent à ceux de Google. Idem pour Ecogine, qui utilise le moteur de Google, mais dont l'interface graphique laisse à désirer. Quant à Lilo, les résultats, avant tout français, ne tiennent pas suffisamment compte de notre emplacement, ce qui devient vite irritant. Vivre sans IA? Pour Daria Marchenko, il n'est pas réaliste de songer à se priver de l'intelligence artificielle. Ça va rendre les gens malheureux et les marginaliser. Dans le milieu universitaire, tu vois la différence entre la personne qui a utilisé l'intelligence artificielle pour sa présentation et celle qui ne l'a pas utilisée. À l'instar de Sacha Luccioni, elle prône plutôt le discernement technologique. Il faut se demander comment on utilise quelle technologie et pour quelles raisons. Et si on veut savoir s'il fait beau dehors, on n'a qu'à regarder par la fenêtre. D'autres éco-gestes à adopter, source, Hello Carbo et Daria Marchenko, tapez l'adresse d'un site web directement dans la barre d'URL, enregistrez les sites fréquemment consultés en favoris, employez des mots-clés précis pour limiter la sollicitation des serveurs. En savoir plus, source rapport 2025 sur l'information numérique, Institut Reuter, 15% proportion des moins de 25 ans qui utilisent des robots conversationnels chaque semaine pour s'informer. C'était « Faire ses recherches en minimisant son empreinte », un texte de Valérie Simard, paru le 20 juin 2025 dans la presse.